Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Numérique. J'ai failli réfléchir au nom de ce podcast parce que ça fait un petit moment qu'on n'est pas retourné derrière nos micros, Valentin.
Oui, quelques semaines, quand même quelques jours, vous nous avez manqué.
Tu as passé de bonnes vacances.
Ouais, c'était court, mais j'y retourne bientôt.
Oui, voilà, monsieur, on n'en a jamais assez, il y retourne. Bon, on est super content de vous retrouver. On va reprendre le rythme qu'on connaît bien, qui est un rythme quotidien, une fois tous les jours, un sujet autour du digital. Et puis, bien pour commencer, on va peut-être refaire un petit retour en arrière. On va regarder dans le rétroviseur. Alors, pas très loin, juste sur le mois, mais il y a pas mal de sujets qu'on a laissé glisser parce que voilà, fallait qu'on se repose. Mais une fois que c'est fait, faut arrêter de déconner, on va reprendre les choses bien. Et donc, j'ai demandé à Valentin de sélectionner les sujets qui, selon lui, sont immanquables parce que pour ne pas avoir totalement loupé son mois d'août, il faut avoir entendu parler de cela. Donc, eh bien, on y va. On attaque ?
Eh oui, effectivement.
Alors, ton premier sujet, ça serait quoi ?
Alors, oui, parce qu'il faut savoir qu'Internet ne dort jamais, les gens du web non plus. Alors, mon premier sujet, c'est Bib. C'est la BBC qui développe son propre assistant vocal. Et cet assistant vocal s'appellera Bib.
D'accord. Alors, qu'est-ce que fait cet assistant vocal alors, de particulier ?
Alors, il est particulier parce qu'en fait, la BBC l'a créé en fait, pour qu'il puisse reconnaître et comprendre les différents accents du Royaume-Uni. Il y en a beaucoup, on se moque souvent de l'accent irlandais ou de l'accent écossais. Et pour des assistants vocaux, bien qu'ils soient très souvent formés pour être très performants en anglais, ils sont pas toujours très doués pour reconnaître les différents dialectes et les différents accents de Grande-Bretagne. Et du coup, la BBC prend les devants et c'est assez intéressant parce que du coup, c'est un énorme média, un immense groupe média qui prend les devants sur les technologies. C'est pas étonnant venant de la BBC parce qu'ils avaient déjà créé plusieurs émissions uniquement pour des assistants vocaux. Alors c'était pas forcément sous forme de podcast, mais c'était plutôt des histoires un peu interactives, un peu narratives pour les enfants. Et là, on les voit aller plutôt vers l'assistant vocal. Donc peut-être que derrière, ça va les aider aussi, ça va leur servir à avoir une espèce de surcouche ou de sous-couche sur leur application principale. On ne sait pas trop, mais
c'est super intéressant qu'un acteur privé s'intéresse à l'accessibilité. Parce que là, en l'occurrence, nous, c'est plutôt les Français, on se plaint, parce que souvent, les intelligences artificielles, elles sont formées à partir de la langue de l'ingénieur qui est derrière, ça veut dire l'anglais. Et nous, on est toujours un peu à la traîne. On voit que là, même dans certaines parties de l'anglais, ou du moins les anglophones sur certains accents, de pouvoir s'y intéresser, ça apporte un vrai plus. Et donc, du coup, tu penses que ça va changer? C'est quelque chose qui pourrait être réutilisé par d'autres après, ou c'est quelque chose qu'ils vont privatiser?
Je pense que l'idée, ce serait de rendre ça ouvert, c'est-à-dire accessible à tous sur les travaux et les algorithmes qu'ils ont et sur les évolutions. Surtout qu'aussi, dans les défauts entre guillemets de prononciation entre l'anglais américain ou l'anglais classique, on peut aussi arriver à déceler des personnes handicapées. Tu parlais d'accessibilité, qui ont des défauts de prononciation. Et ça pourrait aussi également aider les algorithmes à mieux intercepter, comprendre les mots qui sont prononcés.
Bon, je pense que c'est pas mal, mais qu'il restera toujours quelque chose d'inaccessible pour une intelligence artificielle, ce sont les Texans, parce que c'est toujours l'enfer de les comprendre. Ok, deuxième sujet, tu as sélectionné quoi ?
Alors, j'ai sélectionné une annonce qui vient du Japon et qui concerne Uber Eats et qui s'associe avec une chaîne de super-héros ou de combini, comme on peut les appeler là-bas, qui s'appelle Lawson. Et du coup, Uber Eats prend la tangente, en fait, et ne va pas uniquement livrer des plats venant des restaurants, mais va livrer aussi de la nourriture qui vient de ces magasins-là et du coup des produits de tous les jours. Donc c'est assez significatif de l'axe que va prendre Uber, qui les livreurs ils s'en foutent en fait. Uber ça va devenir une plateforme de mise en relation entre un restaurant, un établissement et un consommateur.
On avait fait un podcast qui parlait justement en Chine du nombre de personnes qui commandaient leur place sur internet, leur course de la semaine. Donc là on est aussi je pense sur cette tendance-là en quelque sorte.
Ouais. Ouais, carrément. Et c'est une bonne, un bon moyen aussi pour Uber de s'intégrer en Chine, en, pardon, au Japon. Japon. Au Japon, puisque les voitures Uber ne sont pas au Japon.
D'accord.
Ouais, il y a un gros, il y a une grosse protection, un gros protectionnisme des taxis. Les pouvoirs publics essayent d'ouvrir un peu ça. Je pense que ça risque d'être le cas. Ça risque de batailler avant les JO. Mais voilà, mais Uber Eats aussi s'intègre un petit peu. Donc, on commence à s'intégrer dans la vie de tous les jours des Japonais pour que le jour où il y aura des voitures, eh ben, ils puissent s'orienter vers cette marque-là.
Bien sûr. Et alors, en troisième sujet, je crois que tu voulais nous parler un peu d'argent et un fait un peu drôle. Anecdotique, je ne sais pas, il est peut-être même historique. Ça concerne les jeux en ligne, le gaming.
Effectivement, ouais, dans le dernier tournoi de Dota 2, qui est The International Dota 2, l'équipe OG a remporté un prix de 14 millions d'euros, c'est 15,6 millions de dollars. Et du coup, si on le redécoupe par personne, en fait, bah, ça fait 3,1 millions de dollars par joueur. Et c'est plus que ce que peut gagner le gagnant du tournoi de Wimbledon.
Cette fameuse comparaison avec le monde réel, ou du moins le monde traditionnel, là où on a nos repères en disant, bah, normalement, un joueur de tennis, ça gagne plutôt bien sa vie. Alors, on ne l'a pas encore comparé au footballeur. Je pense qu'il y a encore une marge
avant que ce soit dépassé.
Mais c'est intéressant. Ça veut dire que... Est-ce que ça va leur donner un peu de crédibilité supplémentaire à ceux qui regardent encore ça de haut, le e-sport ?
Ben, aux yeux de beaucoup de gens, non. Parce qu'il y a des gens qui seront toujours opposés, qui ne vont jamais trop comprendre le vrai rôle de l'e-sport ou comment c'est en train de bouger. D'ailleurs, il y a l'un des plus grands, des joueurs les plus connus qui s'appelle Ninja, qui a signé un partenariat avec Adidas. Donc ça veut dire aussi que maintenant, les cyberathlètes et les athlètes commencent à être un petit peu au même niveau, alors qu'il y a encore... Une bonne quinzaine d'années facilement, les prix étaient de quelques dizaines de milliers d'euros, voire quelques centaines de milliers de dollars, ce qui était hyper faible. Mais voilà, ça veut dire que les marques s'y intéressent. Il y a des vrais moyens de diffusion, c'est-à-dire qu'on pourra regarder un match d'e-sport, qu'on pourra regarder un vrai match de Champions League, peut-être pas à la télé, mais sur Internet, et du coup, ça va agréger suffisamment d'audience. Et du coup, ça veut dire que les sponsors intéresse, ce qui veut dire qu'on peut mieux rémunérer aussi les gagnants.
Bien sûr. Et puis, alors, du coup, toujours dans nos news, ce qu'il ne fallait pas louper au mois d'août, il y a aussi l'Australie qui fait une proposition. Là, on rentre dans un sujet bien plus pragmatique, ouais, autour des attaques terroristes.
Exactement. L'Australie veut bloquer les réseaux sociaux en cas d'attaque terroriste. Donc, j'ai choisi ce sujet-là parce qu'il est assez... y a un vrai débat à avoir, c'est-à-dire, ok, ben, je pense qu'ils sont encore dans l'espèce de traumatisme de la vidéo de Christchurch. Mais l'autre inconvénient, c'est de bloquer les réseaux sociaux. Ben, c'est de bloquer tout l'élan un petit peu d'entraide qu'il y a pu avoir. Je me rappelle du 13 novembre en France où il y avait le hashtag porte ouverte, en fait, où tous les Parisiens ont dit, ben voilà, vous pouvez venir à telle adresse, je vous ouvre chez moi, vous venez chez moi. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont réfugiés chez d'autres personnes.
C'est quoi l'argument de l'Australie pour dire il faut bloquer les réseaux sociaux pendant une attaque terroriste?
Et ben, c'est limiter en fait les échanges et l'accessibilité au contenu qui peut être violent, et du coup ben c'est aussi protéger les internautes. Mais est-ce qu'on les protège, ou est-ce que du coup c'est juste une réaction de pas arriver à contrôler, ou de pas arriver à, enfin, je trouve qu'un peu c'est un petit peu c'est pas le liberticide, mais c'est je pense pas que ce soit la bonne réponse à avoir. Tu vois, t'as Facebook qui vient de lancer un truc pour les autorités locales aux États-Unis qui permet d'envoyer une alerte sur Facebook. Donc, ce qui veut dire que tu peux envoyer une alerte en local, si c'est la ville de Lyon, si c'est la ville de Paris, etc., sur Facebook, donc là où il y a beaucoup de gens qui se retrouvent. Et tu peux aussi prévenir que ben, voilà, t'es en sécurité. Il y a cette alerte aussi quand il y a des tremblements de terre. Donc, tu peux aussi indiquer aux gens que tu es en sécurité. Et le fait de bloquer les réseaux sociaux, ben, tu ne peux pas leur écrire, tu ne peux pas publier un message. Et du coup, tu bloques aussi l'élan où les gens se rassurent entre eux pour dire, voilà, c'est bon, moi, tout va bien, je suis en sécurité.
Voilà. Donc, une réaction peut-être un peu trop vive, ou en tout cas un peu trop gênante par rapport à ce que ça prive comme fonctionnalité de la part de l'Australie.
Ouais, mais l'Australie veut éviter aussi que les gens s'inspirent en fait de ce qu'ils ont vu. Et ils sont assez, assez autoritaires là-dessus. Ils ont bloqué pas mal de jeux vidéo qui pouvaient être violents. Donc, il y a une vraie crainte, il y a un vrai, Il y a beaucoup de décisions qui sont prises à l'encontre de tout ce qui peut être sur l'accession à la violence sur Internet.
Mmh. Ok, on va passer au dernier sujet qui va être un peu plus ouvert, on va dire.
Beaucoup plus ouvert, oui.
Qui va plutôt faire appel à notre curiosité.
Ouais.
On va parler de plantes.
Ouais, on va parler de plantes. Alors, étonnant pour siècle digital, mais on parle beaucoup de changement climatique, d'écologie.
Donc
et
tu vas nous parler de ton petit jardinet en permaculture, c'est ça ?
Alors non, malheureusement, j'ai parlé du Royaume-Uni. Et surtout, l'impact du changement climatique, c'est qu'il fait renaître des plantes d'antan. Et voilà, et d'après plusieurs botanistes, des cicadées, c'est le nom de cette variété de plantes, poussaient massivement à l'époque des dinosaures, et ils sont en train de sortir 150 millions d'années plus tard dans certaines zones du Royaume-Uni. Donc c'est assez impressionnant à voir, mais ça veut
c'est
dire
c'est assez
aussi...
drôle à voir, hein, les photos, ouais. C'est vrai, c'est pas des choses dont on a l'habitude de voir.
On a pu voir éventuellement dans nos cahiers d'écoliers quand
avec
on voyait des dinosaures, c'est par exemple. Et c'est assez drôle à vivre. Alors c'est pas rassurant, ça veut dire que le monde change et notre écosystème, notre biologie change aussi. Mais voilà, peut-être qu'on va pouvoir faire pousser plus de choses que d'autres et voilà, donc ça évolue, mais
ceux qui annoncent l'effondrement et la fin du monde, peut-être qu'on sera surpris de choses qui vont réapparaître, un nouvel équilibre avec d'autres plantes, notre biodiversité qu'on aurait totalement oubliée.
Ah, exactement. Alors la biodiversité, je ne sais pas, peut-être qu'on va avoir un bioécosystème assez différent. Mmh. Une biodiversité, je pense qu'elle sera moins importante tant que l'animal que nous sommes occupera cette plaire.
Je partage ton avis. Ok, on a fait le tour des sujets. Merci Valentin. Voilà, il y a 5 sujets qu'on a sélectionnés ainsi. C'était tout à fait subjectif. On se dit à demain et cette fois-ci, on reprend le format normal parce que là, on a quand même dépassé les 11 minutes.
Oh.
Voilà, on était un peu long. Ouais. Mais voilà, on retourne à nos 5-7 minutes quotidiens pour vous permettre bien de continuer à faire votre veille et la partager avec nous. N'hésitez pas à nous faire vos retours en nous donnant des notes, des commentaires. On prend tout. On aime bien savoir ce que vous pensez de nos émissions.
Oui.
À très vite.
À très vite.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.